Chapitre 77. À proximité du quartier du Marais, entre le 3e et le 4e arrondissement de Paris, les gendarmes s'étaient égarés dans un parking du côté de la rue de Rivoli et du quai de l'Hôtel de Ville. Ils empruntèrent la rue du Roi de Sicile, comprimée entre ses immeubles de quelques étages, ses restaurants, ses boutiques de chocolat et d'épicerie fine. Paul se fichait de la beauté de ce qui l'environnait, à vrai dire. Il ne voyait rien. L'inquiétude noircissait l'espace autour de lui. Il était plus de 15 heures et Andrea Habergel ne s'était pas présenté au palais de Tokyo, alors qu'il y arrivait tous les jours pour 14 heures. Martini et lui s'arrêtèrent devant une lourde porte cochère. Le nom d'Habergel s'affichait au milieu de dizaines d'autres sur l'interphone. Paul appuya partout, sauf sur la sonnette de l'artiste. On finit par leur ouvrir. L'angoisse monta d'un cran quand ils poussèrent le lourd battant. Ils débouchèrent sur une large cour pavée, cernée de bâtiments, d'ateliers, de bureaux de production, de cabinets d'avocats. Des plantes poussaient le long des façades. Les fenêtres étaient minuscules et poussiéreuses comme dans les vieux magasins d'antiquaires. Tout bruit de circulation avait disparu. On eût dit que Paris retenait son souffle. Paul se demanda comment pouvait régner un tel calme au cœur d'une si grande ville. Passé l'étonnement, les gendarmes se renseignèrent auprès des gens qu'ils croisèrent ou en frappant aux portes. Après des essais infructueux, une dame finit par leur montrer un escalier dans le coin opposé de la cour. Andrea Habergel habitait dans un appartement au dernier étage. L'escalier en bois était d'une raideur d'échelle. Les murs si serrés que Paul avait l'impression d'évoluer dans les cales d'un ancien galion espagnol. Son genou le tiraillait, mais il gravit les marches grinçantes, Martini juste derrière lui. La vérité était là, à portée de main. Il n'allait certainement pas flancher maintenant. On entendait la minuterie qui avait déclenché les lumières. Les deux hommes atteignirent enfin le 6e étage. Ils dégainèrent leur Sig Sauer en silence. Le front de Martini perlait de sueur. Il était mort de trouille. « Ça va aller ?» murmura Paul. « On aurait dû prévenir les équipes. On fait une connerie. C'est moi qui juge, pas toi. » Martini la boucla. Paul colla son oreille à la porte. Rien. Habergel avait-il pris la fuite? Il tapait à peine du poing qu'il perçut le déclic de la poignée ronde et que le battant s'écarta sous l'impulsion de son coup. Il échangea un rapide regard avec son équipier. Ils étaient attendus. Le hall était encombré de caissettes en plastique, d'accessoires de cirque, de costumes colorés rassemblés en tas. La gorge serrée, Paul franchit le seuil, l'arme brandie devant lui.
« Andrea Habergel, gendarmerie nationale !»
Aucune réponse, pas le moindre craquement de parquet. D'un mouvement du menton, le capitaine signifia à Martini qu'ils allaient avancer. Sur le qui-vive, ils passèrent devant une cuisine ridicule, où traînait encore une assiette et des couverts sales. À gauche, la chambre était vide. En bout de couloir, les perspectives s'ouvraient pour dévoiler une large pièce en mezzanine. Fauteuil, pans de tissu bleu, vert et rouge accrochés au mur, table, bancs de formes diverses et variées, un atelier de photographie. Immédiatement, deux canons se pointèrent vers l'homme entièrement nu, assis dans la position du lotus, sur une immense toile immaculée. Son corps était glabre, d'une blancheur de lait. Son crâne, intégralement rasé, lui aussi, brillait sous les éclairages de nombreux spots. Dans son dos, une autre toile blanche était tendue, pareille à un écran de cinéma. Des réflecteurs parapluies l'encerclaient, une caméra et deux appareils photo sur pied le braquaient.
« Je savais que vous viendriez. »
Paul fit deux pas en direction d'Habergel, le maintenant en joue. Il découvrit alors les mains de l'artiste. Dans l'une, il tenait une télécommande. Dans l'autre, un pistolet à canon court, léger et compact. D'un geste précis, l'artiste porta son arme sur le rebord de sa lèvre inférieure, juste au niveau du menton, le canon incliné vers le haut. Son index s'enroulait autour de la queue de la détente. Il paraissait aussi serein qu'un bouddhiste en pleine méditation.
« J'ai jeté un œil juste avant que vous arriviez, » fit-il avec un calme absolu. « Savez-vous combien ils sont connectés aux caméras en ce moment même ? Plus de 70 000. » 70 000 anonymes, sans aucun doute impatients que je m'explose la cervelle et que je délivre mon ultime collection de photos, celle de ma propre mort. J'aurais aimé atteindre les 100 000, mais vous êtes là. J'ai l'impression qu'il va falloir abréger.
Ne faites pas ça. Quand Abergel accrocha son regard, Paul ne décrypta au fond de ses pupilles que l'expression d'une folie destructrice. L'homme était malade. Il ne ferait pas marche arrière. Tout ça faisait partie intégrante de son œuvre. Comme un écho à la pensée du gendarme, Abergel se mit à parler d'une voix monocorde.
Entre le 21 mai et le 29 juillet 1890, Van Gogh a peint 80 tableaux parmi les plus puissants avant de se tirer une balle dans la poitrine. 80 tableaux qui se vendent aujourd'hui à des dizaines de millions d'euros, réalisés en à peine 70 jours. Avec Champ de blé au corbeau, dans les tout derniers instants, Van Gogh avait atteint sa vérité. Il était parvenu à une forme d'éternel, et il n'y avait plus rien à espérer après. Que peindre? Et pourquoi? En tant qu'artiste, il était déjà mort. Son suicide est venu comme un point d'orgue. Sans lui, Van Gogh n'aurait probablement jamais été Van Gogh.
Martini maintenait aussi le photographe en joue. La sueur lui piquait les yeux et il s'essuyait en frottant son visage sur le haut de sa manche. Il ne comprenait rien à ce qu'Abergel expliquait.
« Ce que je m'apprête à réaliser marquera au fer rouge les esprits et le monde de l'art contemporain. » Vous vous rappelez Banksy et sa mise au point d'un mécanisme de destruction de son œuvre juste après une vente. Désormais, elle est inestimable. L'art peut être tellement incompréhensible et stupide, parfois. Vous le découvrirez quand mes photos s'arracheront à prix d'or.
Il pointa un ordinateur avec sa télécommande.
J'ai veillé à ce que celles qui vont bientôt être prises soient envoyées automatiquement à l'adresse mail de mon agent, et vous ne pourrez rien y faire. Et ce n'est pas le clou du spectacle, car ce qui suivra m'amènera beaucoup plus loin. Les types comme vous nous prendront pour des imposteurs, des malades, mais nous serons des porte-drapeaux, des surfaces de projection des fantasmes les plus hétéroclites. Nous offrirons un voyage de l'autre côté du miroir aux vrais connaisseurs. Nous sommes allés plus loin que Van Gogh et Banksy réunis. Nous serons de ceux qui ont révolutionné une manière de penser l'art. Personne ne pourra aller au-delà de ce que nous avons fait.
Rien n'avait de sens, tout au moins pour un esprit logique et terre-à-terre tel que Paul. Comme Traskman, comme Gaessa, cet homme était juste un fou dangereux dont il fallait stopper le parcours sanglant. « Qui ça, nous ?» demanda alors Paul. Abergel écarta les lèvres. L'acier du canon claqua d'abord contre l'émail de ses dents, puis disparut dans sa bouche. Martini recula d'un pas, levant les deux mains afin d'apaiser la situation. « Non, ne faites pas ça, ne... » Il y eut soudain un crépitement, pareil à celui d'une ligne haute tension. Puis les flashs libérèrent leurs cataractes de lumière à un rythme incroyable, alors que les deux appareils photos se déclenchaient en mode rafale. Le coup de feu partit, et instantanément la toile blanche derrière Abergel se transforma en une voûte céleste sanguinolente. Des gouttes avaient giclé à plusieurs mètres de haut, fouettées par l'énergie d'une balle qui avait explosé l'arrière de la boîte crânienne. Abergel s'effondra. Le sang se répandit, sombre et épais, le long de sa joue droite. Ses yeux grands ouverts fixaient l'un des appareils photos. 10 secondes plus tard, les flashs cessèrent. Et la pièce retomba dans le silence.